Bonjour Bruno.
La marche de l'histoire est une feuille d'érable qui tombe sur un champ de bataille.
Et oui, au soleil de Vimy, François Hollande n'était pas en Corrèze. Hier, tout à l'exercice de sa tâche, il était dans le Pas-de-Calais en compagnie du Premier ministre canadien.
Et dire que lorsque nous sommes traversés en France, nous étions près de 1200. Comme ça tombe.
Les Canadiens dans la guerre de 14-18.
Chaque année, vous êtes des dizaines de milliers à venir du Canada pour honorer les héros de Vimy. La France vous accueille avec émotion et fraternité parce qu'elle n'a jamais oublié le dévouement des soldats canadiens.
En allant jusqu'à sacrifier leur vie, ces hommes à la fois ordinaires et extraordinaires ont combattu pour la première fois comme citoyens d'un seul et même pays. Le Canada est né ici.
Vimy, en avril 17, 3600 morts en 4 jours. En 4 ans de guerre, plus de 60 000 morts. Le Canada, dominion de l'Empire, avait été entraîné dans le conflit. Il n'avait à en attendre nulle extension territoriale, mais il en tira, au traité de Versailles, une vraie reconnaissance internationale. Dès les années 1920, un symbole fut choisi par Ottawa pour marquer cette entrée dans le grand jeu mondial, la prise de la crête de Vimy par les 4 divisions canadiennes, pour la première fois alignées côte à côte dans le cadre de la bataille d'Arras. Au moment de l'inauguration du mémorial de Vimy, l'un des plus impressionnants de la région, le général Ross déclara « Ici, c'est tout le Canada, de l'Atlantique au Pacifique, qui passait. J'ai pensé alors que j'assistais à la naissance d'une nation. » Le Premier ministre Justin Trudeau, qu'on vient d'entendre, a repris hier ce thème mot à mot. Il y a une dizaine d'années, alors qu'il était encore seulement un jeune premier, Trudeau avait tenu sur les écrans le rôle du soldat Talbot Papineau, un soldat francophone dans une production de 4 heures sur la Grande Guerre, mais une production en anglais. L'histoire militaire et patriotique du conflit s'est en effet écrite au Canada dans cette langue. En français, on a insisté bien davantage sur une autre face. Le refus par les Canadiens français de la conscription obligatoire telle qu'elle fut imposée à partir de 1917. D'un côté, l'idée qu'une nation se construit par la conscience du sacrifice que font ses membres. De l'autre, une nation qui se bâtit sur la résistance au pouvoir du plus fort. Même si l'indépendantisme québécois est aujourd'hui en repli, la contradiction entre ces deux mémoires de la Grande Guerre n'est pas encore complètement surmontée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Notre invité ce lundi, Laurent Vessière, bonjour.
Bonjour Jean.
Qui a publié aux éditions Septentrion « Le Québec dans la Grande Guerre » qui était à Vimy hier, vous rentrez tout bronzé.
On a eu un temps exceptionnel en effet.
Il y avait 25 000 Canadiens à Arras et à Vimy.
Oui tout à fait, ils sont arrivés pour passer un grand week-end, enfin une grande fin de semaine comme on dit au Québec.
C'est bien de parler ainsi. Vous dites dominion, vous, ou dominion ?
Ah, plutôt dominion.
Bon, alors donc, en 1914, le Canada est un dominion, pardon, un dominion depuis près d'un demi-siècle. Et il dispose d'un gouvernement particulier. Je ne parle pas du gouvernement des provinces, mais du gouvernement d'Ottawa. Cependant, c'est l'Angleterre qui détermine la politique étrangère.
Oui, tout à fait. Donc, le Canada, depuis 1867 et la création de la Confédération, a un gouvernement autonome pour sa politique intérieure. Par contre, pour tout ce qui concerne les affaires internationales, et en particulier une déclaration de guerre, le Canada, comme les autres dominions, est automatiquement engagé en guerre si la métropole britannique déclare la guerre.
Mais l'Angleterre attend encore davantage du Canada que d'autres dominions comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui sont plus lointains.
Oui, d'une part parce que c'est un pays où les ressources sont importantes, les ressources naturelles, les ressources aussi industrielles qui sont en train de se développer à grands pas. C'est aussi un bassin de population important. On considère qu'il y a à peu près 7,5 millions d'habitants. En 1911, au recensement, il y en avait 7,2 et ça va très vite. Pourquoi ça va très vite ? Parce qu'il y a une immigration massive d'hommes essentiellement en plus venant du Royaume-Uni. Et on le retrouvera d'ailleurs dans la constitution du corps expéditionnaire.
Alors fournir du charbon, construire des bateaux, très bien, mais il faut fournir des hommes. Et dès le tout début, en août 1914, alors que la force permanente armée du Canada est très faible, le Premier ministre promet 25 000 hommes. La force armée du Canada est très faible.
Oui, à l'été 14, on peut considérer qu'il y a 3000 soldats professionnels, même si leur formation n'est pas aboutie. Et il y a une milice de 60 000 hommes. Mais alors attention, une milice, c'est parfois quelqu'un qui est juste inscrit sur une liste et qui n'a eu aucune formation militaire.
Le recrutement, tel qu'il est décrit dans un film de Paul Gross qui s'appelle « La bataille de Passchendaele ». Passchendaele, c'est une bataille qui suivra Vimy. Un officier de carrière, il y en a, dites-vous, 300 seulement, anglophones, bien sûr, mais qui parlent bien français.
Ces dames parmi l'assemblée pourraient-elles s'asseoir, je vous prie? Merci. Et les hommes ayant dépassé l'âge de servir, auraient-ils l'obligeance d'en faire autant? Et les jeunes garçons qui ne sont pas encore en âge de servir, voudraient-ils se rasseoir également? Et à présent, je vous demanderai de regarder les hommes qui sont restés debout autour de vous et d'expliquer pourquoi ces derniers ne font pas leur part pour leur roi, leur pays et leur dieu.
Bon, c'est un peu culpabilisant, mais enfin, on peut ne pas se faire enrôler. C'est un enrôlement volontaire encore.
Oui, c'est la grande différence avec les pays d'Europe continentale, la France et l'Allemagne, surtout où on mobilise les soldats, donc on n'avait pas le choix. Dans les pays anglo-saxons, c'est l'engagement volontaire. Donc ça repose quand même sur une démarche très particulière.
Et les proportions par province, puisque le Canada est organisé en province, des enrôlés volontaires dans les premiers mois?
Ben, ce sont des soldats qui viennent un peu de toutes les provinces, mais essentiellement quand même de l'Ontario. C'est évidemment le bassin de population le plus anglophone, le plus ancien, à part le Québec, je le mets de côté, qui va fournir le gros des troupes du premier contingent.
Mais il y a beaucoup de Britanniques qui sont arrivés au Canada peu de temps avant le début de la guerre. Oui, et donc, eux, assez naturellement, ils veulent bien rejoindre le combat sur le continent.
Oui, au moment de la déclaration de guerre, donc cette immigration qui est très récente, et je ne parle pas de plusieurs générations, mais de quelques années seulement, d'Écossais, d'Irlandais, d'Anglais évidemment, vont s'engager immédiatement. On considère que le premier contingent qui part dès 1915 en Europe est constitué à 70% d'immigrés récents, et donc une très faible part sur ces 30 000 hommes de vrais Canadiens, c'est-à-dire de souche ancienne.
Formation au Canada, formation en Angleterre, arrivée en 1915 en Flandre et en Artois. Une des manifestations autour de l'anniversaire de Vimy consiste à mettre le projecteur sur les inscriptions que dans les tranchées, ils se retrouvent dans les tranchées, dans les souterrains, les Canadiens formulaient.
Oui, c'est une redécouverte qui est assez récente, une petite quinzaine d'années, par les archéologues du Nord-Pas-de-Calais, ou dans les souterrains qui avaient été un peu oubliés après la Deuxième Guerre mondiale. Pas après la première, mais bien la deuxième. On avait complètement refermé les plaques. On avait mis souvent dans des fermes, d'ailleurs. Les entrées étaient obstruées par du fumier ou des choses comme ça. C'est assez incroyable. On a retrouvé ces plaques. On est descendu et on a découvert des souterrains absolument incroyables avec des graffitis, des traces absolument nombreuses. Il y a une exposition à Souchez en ce moment au centre Lance 14-18 qui les montre, que je vous invite à aller voir.
C'est assez remarquable. Je suis du Manitoba, je suis de l'Ontario.
Alors c'est à la fois une trace par rapport à son métier, mais souvent aussi par rapport à son origine géographique. Et là, on commence à voir, en effet, certains soldats qui vont vouloir inscrire la région d'origine, voire pour les autochtones aussi, des marques, des têtes d'Indiens, etc. On a tout ça. Et les Québécois, les quelques Québécois qui sont là, mettent le castor en avant.
1915, premiers engagements, Neuve-Chapelle, les Canadiens contribuent à repousser les Allemands dans les nappes de gaz de la deuxième bataille d'Ypres, et puis en 1916, c'est la bataille de la Somme, avec engagement canadien aussi.
Oui, en particulier à la bataille de Flers-Courcelette, qui est une bataille assez terrible, où en particulier le fameux 22e bataillon canadien-français va s'illustrer et vraiment conquérir ses heures de gloire.
Qu'est-ce que c'est le 22e bataillon canadien-français? Les anglophones ont accepté, dès l'automne 1914, la création d'un bataillon propre aux francophones?
Oui, avec grande difficulté, ils ont accepté. En fait, dès l'origine, on considérait, aussi bien le Premier ministre que le ministre de la Défense, considérait que l'armée devait être en anglais. C'est la langue de commandement. Et du coup, les francophones ont rencontré évidemment une difficulté pour s'engager, mais sous la pression d'un groupe de notables, de gens d'église, d'industriels, il va y avoir la création d'un bataillon canadien-français qui prendra le numéro 22, puisqu'ils sont créés dans l'ordre tout simplement numérique, et qui va être composé exclusivement, alors je dirais pas de Québécois, mais de francophones. C'est assez important à l'époque, puisque vous retrouvez des francophones également dans d'autres provinces du Canada.
On parle de Canadiens français, d'ailleurs.
On parle de Canadiens français.
À l'époque.
Y compris pour les personnes qui vivent en Amérique, enfin aux États-Unis.
Et pour les Acadiens, ou même pour les Terneuviens formant un autre Dominion. Dominion. Avril 1917, engagement très bien préparé, pour une fois, à Vimy. C'est une offensive britannique, avec pour l'objectif pour les quatre divisions canadiennes de prendre une crête, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors d'abord, c'est la fameuse bataille d'Arras, qui est une attaque de diversion une semaine avant le Chemin des Dames, qu'on va commémorer dimanche prochain. Donc c'est une attaque de diversion exclusivement britannique. Et au sein de cette attaque, qui se concentre essentiellement sur le secteur d'Arras, au nord, les quatre divisions canadiennes regroupées dans la première armée britannique doivent prendre cette crête.
Lundi de Pâques à 5h30 du matin, ça là, c'est épouvantable comme on peut me compter le boom que ça a fait. Il paraît qu'ils ont entendu le boom jusqu'en Angleterre.
Le départ était extraordinaire parce qu'à ce moment-là, on a fait sauter les tranchées allemandes par des mines qui avaient été creusées sous leurs tranchées. Et d'un coup, une énorme explosion qui avait complètement démoli leur ligne de défense.
À la fin de la journée, les Canadiens dominent la crête.
Nous étions chargés comme des mulets et courant à travers un terrain labouré par les obus. Nous arrivons à notre but, une tranchée tout à fait au bord du précipice, de la montagne, pour dire. Et là, alors, la vue est extraordinaire. De voir une immense étendue, des routes remplies de troupes allemandes, en pleine retraite, qui d'ailleurs étaient spotées par nos artilleurs et étaient bombardées sur leur route. On les voyait s'éparpiller ici et là, d'un côté et de l'autre.
Alors quand on parle de montagne, c'est un peu excessif. Hein. Vous y étiez hier, 145 mètres.
Oui, c'est ça.
Mais il y a maintenant un superbe monument qui, avec Lorette, Ypres, est un des plus saisissants de la région.
Oui, c'est un monument qui a été construit entre 1925 et 1936 par un sculpteur torontois qui s'appelle Hallward et qui domine en fait la vallée de Douai et de Lens. Et c'est de haut de ce monument qu'on comprend bien l'importance stratégique de cette crête.
Parce qu'on voit une trentaine de kilomètres
ronde. Et on voit les mines.
Et ce monument est entretenu par le Canada, il est propriété du Canada, des guides.
Oui, puisqu'en 1922...
par le Canada sont là, volontaires.
En 1922, la France a cédé le site au gouvernement du Canada grâce.
Et là se succèdent les souverains d'Angleterre. L'inauguration a eu lieu avec Édouard VIII et voici la reine Élisabeth.
Le monument commémoratif du Canada à Vimy témoigne de la grande force du Canada et de son attachement à la liberté. Il témoigne surtout de la vaillance, du courage et du sacrifice des braves Canadiens qui ont inspiré un jeune pays à devenir une magnifique nation.
Alors maintenant, si vous le voulez bien, changement de ton, voici la chanteuse Claire Lafrenière. Claire Lafrenière reprend dans le répertoire de la rue ou des premières salles de cinéma des chansons populaires qui, à l'époque, pouvaient être accompagnées par l'orgue de Barbarie.
Monsieur le roi, pardonnez mon audace, moi qui ne suis que votre humble sujet. D'osez-vous dire que c'est une guerre de race qu'on fait chez nous, Canadiens français, quand on défend dans certaines écoles à nos petits d'apprendre désormais la douce langue qu'un trait de plume immole, malgré nos droits, notre parler français. Savez-vous bien ce que veut dire pour nos pauvres cœurs de soldats cette langue qu'on voudrait cire, que nos enfants ne parlent pas? C'est celle dont nos fiancés, lorsque nous nous battons pour vous, pieusement agenouillés, se servent en priant pour nous.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
les Canadiens dans la guerre de 14 avec Laurent Vessière, et maintenant on en vient aux Canadiens français pendant la guerre de 14. Cette chanson qui nous a été transmise par Martin Penet, elle date de 1916. Il y est question de la querelle qui est forte depuis 1914 de la langue de commandement, parce que Claire Lafrenière nous dit il nous est interdit en Ontario d'apprendre le français à l'école et il faut obéir en anglais à l'armée.
Oui, c'est ça. En fait, la guerre se déclenche au moment déjà où on a une crise très importante entre anglophones et francophones depuis l'adoption du règlement 17 en 1912 en Ontario qui interdit l'apprentissage du français. Et donc, lorsque, on en parlait tout à l'heure, lorsque la guerre se déclare, il n'y a pas d'unité francophone. Et les Français, enfin les Canadiens français, pardon, peu parlent anglais. Donc pour eux, difficile de s'engager.
Il faut aussi poser la question de plus en plus brûlante du remplacement des blessés et des morts. À Vimy, en 4 jours, 3600 morts. Après, il y a une bataille encore plus meurtrière, peut-être, en proportion.
Oui,
côte 70,
la
non
côte
loin.
Côte 70, oui, que nous venons de commémorer justement avec un nouveau monument samedi dernier. Contrairement à Vimy, ça n'est pas une bataille qui a été préparée minutieusement. Alors, les pertes sont importantes à Vimy, mais elles auraient été 10 fois supérieures si elles n'avaient pas été préparées aussi soigneusement par le commandement. Là, on monte à l'assaut comme d'autres batailles, et évidemment, les soldats canadiens sont fauchés par les mitrailleuses. On est à près de 10 000 morts.
Donc, on dit à Ottawa, conscription obligatoire. Et on ne va pas procéder, comme dans d'autres dominions, à un vote populaire. Il va y avoir un vote parlementaire.
Oui, c'est le principe de l'organisation gouvernementale du Canada. C'est une loi qui est votée en juillet 1917. Le Parlement fédéral adopte donc le Military Service Act, donc même le titre est en anglais, qui va donc obliger les jeunes hommes à se présenter, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'exemptions qui sont prévues, mais à se présenter devant les autorités et pour voir s'ils vont partir ou pas.
Alors, forte protestation qui va être orchestrée par les catholiques les plus nationalistes du Québec, à commencer par l'archevêque ou le fondateur du journal Le Devoir.
Oui, Henri Bourassa, qui avait accepté dans un premier temps, bon, du bout vraiment des lèvres, de partir en guerre, mais qui dès la fin de l'année 14 s'était déjà opposé à la participation des Canadiens français à la guerre et qui, là, à partir de 1917, va mener une campagne politique très très forte d'opposition à cette loi.
Alors, il faut qu'on comprenne bien qu'il s'agit à la fois d'une opposition à l'Angleterre, mais tout aussi bien d'une opposition à la France. Vos premiers travaux sur le Québec, Laurent Vessière, ont porté sur l'abandon du Québec en 1760, qui reste une plaie purulente.
Ah oui, c'est même une mémoire bien plus importante encore que celle de la Première Guerre mondiale. Pour un Québécois d'aujourd'hui, alors moi justement, je ne suis pas un partisan du terme d'abandon, mais de cession. Et c'est très présent, et à l'époque aussi, évidemment. Et donc, pour un Canadien français de l'époque, puisqu'il ne se détermine toujours pas comme Québécois, on ne veut pas venir combattre en Europe pour l'Angleterre, pour l'Empire britannique, avec qui on n'a pas beaucoup de rapports et qu'au contraire, on s'estime être opprimé par lui. Et encore, pas plus, en tout cas, pas encore plus, mais pas plus pour la France, qui nous a donc, considère-t-on, comme abandonné en 1763.
Mais Claire Lafrenière utilisait dans sa chanson le mot « race ». C'est oui. Une autre race, je prends le vocabulaire de l'époque comme elle, qui s'est constituée avec les Canadiens français.
Absolument, mais c'est un terme qui va rester très longtemps dans le vocabulaire québécois et même anglophone du Canada. En France, il a évidemment pris d'autres particularités, mais l'époque là-bas, oui, on parle vraiment de race anglophone, race canadienne-française, où on montre bien qu'on sont deux peuples différents, je n'ose pas utiliser distinct, puisque c'est justement tout l'enjeu politique aujourd'hui.
Et puis ce sont deux idéaux politiques différents. Chez M. Bourassa et chez Mgr l'archevêque, c'est l'idée de la théocratie qui serait l'idéal.
Absolument.
Tandis que la République française...
Ben oui, parce que
c'est la séparation de l'Église et de l'État.
L'Église canadienne-française va rapidement développer le thème que finalement l'abandon, la cession a été une bonne chose, puisque cela a permis aux Canadiens français d'éviter la Révolution.
Dans les assemblées publiques, partout au Québec, les orateurs anticonscription se succèdent. Edmond Pilote, à l'époque, est dans la jeune vingtaine.
Alors, voici que Borden, lui, allons-y. Les libéraux, là, hommes de raison, qui étaient contre les Borden, les soldats, là, on allait tous faire saigner le sang. Les orateurs, là, ça coulait dans les rues. Puis, je n'ai pas comme cette affaire. T'es le maudit Borden.
Maudit bordel, dit Edmond Pilote dans un documentaire de radio au Canada signé Claude Legault et Linda Baril, auquel on empruntera encore. Alors ça se manifeste comment, le bordel? On a entendu le mot libéral, le parti libéral qui est dominant dans le Canada et qui est pro-conscription, connaît une scission au Québec, c'est ça?
Oui, ben, comme toujours, c'est entre la question canadienne-anglaise et canadienne-française. Alors comment ça se matérialise? Faut penser, enfin pour les Français, pour bien comprendre, pensons au STO, c'est-à-dire qu'on va se cacher. On va refuser, on va aller dans les forêts, on va aller dans les fermes se cacher pour ne pas répondre à l'appel de l'armée canadienne.
Et puis on vote aussi quand il y a eu des élections peu après la conscription obligatoire et le Québec a voté contre les libéraux dominants ailleurs qui prônaient la conscription.
Évidemment, obligatoirement, c'était une conséquence assez logique. Et donc il y a une opposition. Alors il faut faire attention parce que les derniers travaux, en particulier de l'historienne Béatrice Richard, nous montrent que c'est pas forcément une opposition aussi simpliste entre Canadiens anglais et Canadiens français, qu'il peut y avoir aussi une petite scission entre les élites canadiennes françaises très pro Canada anglais et le peuple canadien français. Qui évidemment, lui, est plus proche de ses intérêts. C'est un peuple très, très agraire. Hein. Donc, le père de famille nombreuse qui s'occupe de l'exploitation s'il part à la guerre. Voilà, on imagine bien la femme et tous les petits-enfants qui restent à la maison.
Et en ville, ça manifeste.
Alors en ville, ça va très rapidement manifester. Hein. Dès les premières intentions, en mai 1917, la loi n'est pas encore votée, qu'il y a les premières manifestations. Parfois un peu violente, et puis l'opposition va monter très violemment jusqu'à la fameuse manifestation du lundi 1er avril 1918 à Québec, où la police tire dans la foule, 4 morts. Et c'est le début vraiment de cette mémoire particulière québécoise sur la Première Guerre mondiale.
Alors, vous parliez tout à l'heure de gens qui se dissimulent. En voici qui vont aller vers l'Abitibi, un franco-manitobien, mais je le laisse présenter par Radio-Canada.
Devant l'imminence de l'enrôlement obligatoire, le franco-manitobain Georges Bétourné quitte le Manitoba pour se cacher dans les forêts de l'Abitibi.
Un jésuite nous a fait tracer une carte de l'Abitibi. Tu pouvais tirer, puis nous avons suivi ça. Ça fait qu'on a décidé ça, on est parti. Ça, c'est les Indiens qui nous ont montré le chemin. Avec les Indiens, première chose qu'ils nous ont dit, Saganache, ce qui veut dire blanc, puis ils parlent seulement qu'anglais, hein. Freedom, boum, boum. Ils savaient qu'on sauvait la guerre. Freedom, boum, boum.
Certains Amérindiens aident les conscrits à survivre en forêt. Mais chose peu connue, les Autochtones s'enrôlent extrêmement nombreux pendant la Première Guerre mondiale. Le tiers des Autochtones en âge de s'enrôler se portent volontaires. Toute proportion gardée, ils s'enrôlent plus nombreux que les Canadiens.
Alors ça, c'est une question nouvelle qui a surgi dans l'historiographie. La participation des Autochtones au conflit.
Oui, c'est assez incroyable. 30%, le chiffre est tout à fait exact. Alors, c'est un petit peu comme certains Canadiens. On s'engage aussi pour l'aventure. On s'engage aussi pour découvrir un nouveau continent. Un autochtone n'est jamais venu en Europe. Il y a plusieurs facteurs pour s'engager. Mais en effet, les autochtones qui ont donc les compétences particulières sont recherchées par l'armée. Hein, ce sont des tireurs de précision. Ce sont des gens absolument incroyables. D'ailleurs, je vous invite à lire un très beau livre de Joseph Boyden qui s'appelle Le Chemin des âmes, qui relate comme ça le destin de deux autochtones durant la guerre. Ce sont de très bons soldats.
Et puis pour la reconnaissance, l'exploration, ils sont excellents aussi.
Tout à fait.
Oui, alors, on peut essayer d'expliquer comment se déploie maintenant le champ de l'histoire. Alors, il y a un conflit entre les anciens Canadiens français, les Québécois, qui se considéraient comme les plus anciens, et les Premières Nations. Les vraies Premières Nations, ce sont les Autochtones. Absolument. On voit bien qu'il y a ce débordement là qui s'opère quand on calcule maintenant le nombre d'Autochtones et le nombre de Canadiens français dans la conscription.
Oui, puisque le nombre, alors pas uniquement la conscription d'ailleurs, l'ensemble de la guerre, 10% seulement à peu près, maximum 9 à 10% d'après les derniers chiffres, les dernières recherches de Canadiens français. Écoutez, il faut regarder Vimy hier, c'est très intéressant. Il y avait 4 tableaux dans la cérémonie, les 3 premiers tableaux étaient très simples dans l'ordre. Nous avions d'abord une chanteuse française, Isabelle Boulay, enfin française, en français, francophone, voyez,
La première fois.
Hein. Isabelle Boulay, pour le Québec. Ensuite, Lorena McKennitt, pour la communauté anglophone. Et puis, une chanteuse, Isaac, pour la communauté autochtone. Les 3 nations fondatrices du Canada étaient représentées dans la cérémonie.
Et l'autochtone venait en dernier. C'était donc un peu le rôle privilégié. Combien on connaît de Québécois qui se regardent dans la glace le matin pour chercher les 13 Indiens qui seraient les leurs encore inscrits sur leur visage?
Mais il y a une redécouverte en ce moment, en particulier là depuis la sortie d'un film qui s'appelle L'Empreinte, qui est assez incroyable, qui montre l'influence autochtone sur la société québécoise actuelle, en effet.
Mais je cherche aussi les moyens de dépassement d'un conflit qui est un peu usé ou répétitif. On pourrait, par exemple, calculer combien il y a eu effectivement de conscrits qui ont été envoyés sur notre vieux continent. Pas tant que ça ?
Non, c'est très faible. Hein. Des chiffres, vous savez, il y avait 400 000 à peu près garçons qui pouvaient venir combattre en Europe. Il y a eu au maximum 125 000 conscrits et que 25 000 maximum qui sont venus en Europe. Donc les chiffres sont très très faibles.
Donc c'est une bataille théâtralisée aussi.
En partie seulement, parce qu'elle incarne en fait cette opposition des Canadiens français à la Grande-Bretagne, à la France, mais aussi à simplement la guerre. C'est un peuple assez pacifiste, marqué par l'Église catholique. Et pour eux, participer à une guerre ne va pas de soi quand on est déjà en conflit avec son gouvernement supranational.
Alors voilà ce qui peut dépasser les conflits. C'est organiser les cérémonies et la visite régulière du mémorial de Vimy sur un mode pacifiste.
Ça devrait.
Mais quand vous interrogez les guides canadiens qui sont à Vimy, ils vous disent « moi je suis pas soldat, j'aurais jamais eu le courage de m'engager, je veux pas mourir ». La tonalité victime et paix est dominante.
Absolument. Il y a un discours pacifiste qui a été lancé par le gouvernement fédéral dès les années 60 et qui avait duré à peu près jusqu'au gouvernement Harper qui était passé plutôt, alors c'était au moment de la guerre d'Afghanistan, et qui était passé plutôt sur, au contraire, les valeurs guerrières des Canadiens. Et là, on a vu hier avec Justin Trudeau, on revient à la tradition canadienne du discours pacifiste. Mais attention, hier à Vimy, il y avait très peu de Québécois.
Et est-ce que chez les Québécois, on s'intéresse enfin à l'histoire militaire ou est-ce qu'on publie enfin des témoignages
Alors,
de soldats ?
On publie enfin. Il y a beaucoup de chercheurs québécois qui travaillent maintenant sur la Première Guerre mondiale et les résultats sont tout à fait étonnants. Par contre, la population québécoise ne s'intéresse toujours pas à la Première Guerre mondiale.
Et il n'y a toujours pas de film québécois, par exemple, sur la Première Guerre toujours mondiale.
Pas.
Et il est toujours jeune premier, Justin Trudeau, comme dans le rôle qu'il tenait d'un soldat français.
On a pu constater sa popularité hier.
Canadien-français dans une série télé il y a une dizaine d'années. Merci à vous, Laurent Vessière, votre livre aux éditions Septentrion sur le Québec dans la Grande Guerre et puis votre participation au numéro de l'histoire d'avril 1917 intitulé « Les Américains débarquent » et parmi les Américains, il y a les Canadiens et parmi les Canadiens, il y a les Canadiens français. L'émission était préparée par Frédéric Martin avec à la technique Michel Béziguian et la réalisation c'était Gaëtan Colli.